toutes et à tous et bienvenue dans La Foi en question, l'émission, vous le savez, où l'on s'interroge chaque semaine en compagnie de notre évêque, le cardinal Bousty. Ô Éminence, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, si vous le voulez bien, cette semaine, j'aimerais qu'on s'interroge autour des notions de justice, d'injustice, d'échec, de réussite. Alors, avec tout d'abord cette première question, qu'est-ce que la justice selon Dieu ?
Dieu, la justice, quand il y a une correspondance entre ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit. Donc, il y a une parfaite cohérence entre la pensée et l'action. L'injustice, c'est quand un acte jugé qui devait être juste, équilibré et sain, et sain, devient par des comportements parasitaires, devient injuste, et donc il y a un manque de correspondance et de cohérence avec la vérité.
Alors, Dieu a créé l'homme à son image. Comment expliquer que l'injustice soit présente sur Terre ?
Écoutez, l'injustice, elle est présente sur Terre parce que notre humanité, elle est blessée. Et donc, dans nos comportements, dans la vie relationnelle, il y a des comportements qui ne sont pas ajustés. Donc, tout vient du lien qu'il y a entre les hommes, dans la vie relationnelle, et du lien qu'on a aussi avec l'avoir. Parce qu'avec l'avoir, on peut déclencher l'intérêt. Avec l'affection, on peut déclencher aussi les jalousies ou les violences. Et donc, quand il y a des comportements durs, intransigeants, sans pitié, bien, à la fin, on est injuste. Je peux être injuste avec une personne parce que je la traite mal, donc d'après ma perception, et je peux être injuste également parce que par rapport à l'avoir et par rapport à un critère de justice, l'achat d'une maison, d'une voiture, ou que sais-je, d'un objet. Donc, je triche, ou je n'ai pas un comportement, ou je juge, ou je condamne. Donc, il y a quelque chose qui nous permet de dire ce comportement, cette attitude est injuste.
Alors, finalement, qu'attend Dieu de la justice des hommes ?
Mais que nous soyons heureux, et que nous soyons adultes et responsables. Dans la tradition biblique, vous le savez, il y a beaucoup d'indications d'ordre juridique et d'ordre aussi disciplinaire pour que l'être humain soit juste. Quand on prend le plus grand classique, la loi d'Italion, on en parle, œil pour œil, dent pour dent, ok. C'est une manière de vivre la justice. Pourquoi il y a une loi ? Parce que s'il n'y a pas une loi, il peut y avoir des comportements disproportionnés et grave et encore plus injuste. Si, je dis un exemple bête, si je vole une pomme à un voisin, je vole une pomme, et le voisin vient chez moi et il me tue, mais entre la pomme et la vie du voisin, ce n'est pas du tout proportionné. Mais quand on est en colère, on peut avoir des comportements qui ne sont pas ajustés et proportionnés. La loi italienne, elle dit quoi ? Elle dit qu'il faut que la punition soit équilibrée et corresponde aussi au mal fait. Alors, je vole une pomme, je te donne une pomme. Voilà, donc il y a une dimension, je dirais, commutative dans la justice. Et c'est une manière aussi de sauver l'équilibre entre les personnes. Ça, c'est l'Ancien Testament. Quand on prend le Nouveau Testament, Jésus va plus loin. Donc, il dit face à des comportements injustes, si quelqu'un te frappe, mets l'autre joue. Donc, voilà, là, on dépasse la justice de l'Ancien Testament. On est dans une logique de gratuité, de pardon et de détachement par rapport à des comportements liés au relationnel, la vie relationnelle et affective, ou par rapport au bien. Si quelqu'un prend ton manteau, donnez-lui aussi l'autre manteau. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une évolution, un changement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais si le Seigneur nous demande d'être juste, c'est pour qu'il n'y ait pas de souffrance.
Et que peuvent attendre les hommes de la justice de Dieu ?
On connaît la justice de Dieu. Si on prend le Moyen-Âge, la justice de Dieu, elle était comparée à la justice des hommes. Mais alors, on est mal barré, comme on dit. La justice de Dieu, elle est liée à son amour. Pourquoi ? Non pas pour des motifs un peu légers et superficiels. Si Dieu, par nature, est amour, ce qui va sortir de lui, même dans le domaine de la justice, c'est l'amour. Alors, quand Dieu nous demande d'être juste, il nous demande d'aimer. Quand nous mourrons et nous retrouverons face à Dieu, moi, je ne crains pas. Parce que moi, je vais retrouver face à la justice de Dieu. Et la justice de Dieu connaît aussi nos failles. Et donc, Dieu sera indulgent avec nos failles. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut être irresponsable. Mais on sait que Dieu et sa justice connaissent aussi notre nature, nos failles et nos péchés. Et donc, à la fin, le Seigneur sera juste, mais dans l'indulgence et dans l'amour.
Alors, tendre l'autre joue, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la personne qui ait fait du mal ne se remette pas en cause ?
Il y a un exemple dans l'Évangile qui est toujours fascinant pour moi. Alors, Jésus, quand il parle dans l'Évangile de Matthieu, il dit « Si quelqu'un te frappe dans une joue, tu mets l'autre joue. » Il le dit comme idéal pour arrêter la violence et la vengeance. Mais au moment de la passion, vous le savez, quand le grand prêtre pose une question à Jésus et Jésus répond, un soldat frappe Jésus. Alors nous connaissons tous la réaction. Jésus va dire, si j'ai mal parlé, dis-moi où j'ai mal parlé. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Donc quelque part, Jésus n'étend pas l'autre joue. Mais il dit, sans violence, mais avec clarté, pourquoi un acte de violence si je n'ai pas dit quelque chose de mauvais ?
Alors, comment réagir justement humainement face à l'injustice quand on vit une situation d'injustice ?
Alors, la première réaction humaine, c'est la colère ou la déprime. Voilà, pour moi, voilà, j'ai aidé une personne, je lui ai donné 50 000 euros. Après, je suis dans le besoin, moi, et je ne sais pas qui me tourner, je vais vers cette personne, je demande 3 euros. Elle me dit non, je ne peux pas parce que je suis, voilà. Elle ne m'aidait pas. Moi, je donnais 50 000 euros. Je lui demande 3 euros. Et donc, je sens, quand la personne refuse de m'aider, je peux sentir une injustice liée à la mémoire. J'ai aidé. J'ai fait un effort parce qu'elle était dans le besoin. Et de l'autre côté, il n'y a pas un retour. Certes, on ne fait pas les choses pour avoir un retour. Mais dans la mémoire, on peut se dire, est-ce que cette personne n'a pas pensé que moi aussi, je ne pouvais pas l'aider, et je l'ai aidé, de grand cœur, avec beaucoup de bienveillance, parce qu'elle était dans le besoin. Aujourd'hui, c'est moi qui souffre, qui est dans le besoin, je ne lui demandais pas une somme disproportionnée, mais 3 euros pour résoudre un problème, et cette personne ne m'aidait pas. Donc là, on peut avoir des sentiments de frustration, de colère, de justice, on peut réagir d'une manière peut-être colérique. Ou on peut au contraire être tellement déçu qu'on coupe les liens avec l'autre personne. Je pense que le Seigneur nous demande d'avoir la lucidité et de dépasser le côté émotionnel. Émotionnellement, je pense qu'on peut dire, voilà, c'est injuste, cette personne n'a pas un comportement juste avec moi, donc je souffre, donc c'est pas bien, donc je prends mes distances. Mais le Seigneur nous invite aussi à aller au-delà de nos émotions, pour dire, voilà, avec cette personne, même si elle a un comportement qui n'est pas le mien, parce que cette personne a son histoire et sa vie, et je trouve que ce n'est pas bien, mais je ne vais pas m'installer dans une logique de conflit, ou de vengeance, ou d'injustice, ou de tribunal.
Mais finalement, doit-on se battre contre l'injustice sur Terre ? Se battre, le terme est un peu mal choisi,
oui,
mais...
Oui, mais il faut lutter contre l'injustice. Parce que si on s'installe dans l'injustice, on s'installe dans la souffrance. On fait souffrir. Et donc, vous le voyez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Salomon étant d'autres sages, bien certainement, il juge. C'est-à-dire, il faut quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui n'est pas pollué par l'émotion affective, donc quelqu'un d'extérieur qui va juger avec plus d'objectivité pour dire il faut arrêter. Mais il est important de lutter contre l'injustice. Autrement, on est dans la souffrance, on est dans le mal et on fait du mal. On fait souffrir les autres.
Alors, parfois, la vie elle-même semble totalement injuste pour un individu ou pour des familles marquées par des drames. Comment répondre à ce sentiment profond qui, justement, peut paraître justifié parfois ?
Alors, parfois, effectivement, quand on regarde la vie et l'histoire de certaines personnes ou de certaines familles ou de certaines situations, on s'est dit, mais quelle catastrophe et quelle souffrance. Et cela continue. Alors que ces personnes sont coupables, moi je pense que les situations de souffrance devraient déclencher en nous la compassion. De dire, ces personnes souffrent, comment on peut les aider? Comment on peut les soutenir? Comment on peut avoir un travail aussi de soutien, de réconfort, de consolation envers ces personnes-là? Quelque part, la souffrance des autres devrait déclencher, ou l'injustice que les autres vivent, devrait déclencher une dimension de compassion pour les aider, pour être plus fraternels et plus solidaires.
Et le message que vous leur envoyez à ces personnes ?
Le message, c'est un message clair, c'est-à-dire je ne suis pas indifférent à ce que tu vis, je ne suis pas indifférent à ta souffrance, je fais ce que je peux. Si quelqu'un perd un enfant, où il y a un accident et un jeune meurt, je ne vais pas pouvoir le ressusciter. Mais au moins lui dire, on est à côté de toi, on t'accompagne, on souffre avec toi, on est conscient de ce que tu vis et donc on n'est pas indifférent. Et ta souffrance touche mon cœur et ma vie et je vais être à côté de toi.
Alors, quand on est face à un échec, cela peut parfois sembler injuste. Comment comprendre en conséquence un échec sur la Terre ?
L'échec, bon, vous savez, on est humain, donc on n'est pas à l'abri des échecs dans la vie. Hein. C'est comme, quand on regarde l'histoire humaine et l'histoire personnelle, quand un enfant commence à marcher et tombe, c'est un échec. Il commence, il tombe. Mais il se relève et il retombe. Il se relève, il retombe, mais à la fin, il apprend. Donc, notre vie, elle est faite d'échecs. Comme disait le sage, un échec n'est qu'une occasion pour commencer avec plus de sagesse. Si l'échec nous installe dans une forme de déprime ou de désolation, alors on n'avance plus dans la vie. Parfois, on apprend d'un échec. On se fortifie grâce à un échec. Même si on a souffert, un examen de permis de conduire ou un examen d'université. Ok, un échec, tu n'as pas réussi au premier coup, mais tu peux continuer. Tu vas continuer parce que tu veux réussir. Ça peut stimuler. Au lieu de nous dire, voilà, c'est un échec, c'est fini, tu n'as plus rien à faire, assieds-toi, ne tente plus. L'échec te demande d'essayer, de tenter de nouveau, de mieux te préparer, d'aller plus loin, d'apprendre aussi de l'histoire et d'apprendre des souffrances.
Alors j'ai tout donné, j'ai énormément prié, mais je n'ai pas réussi. Est-ce que Dieu peut nous paraître alors insensible ?
Alors quand on dit « je n'ai pas réussi », qu'est-ce qu'il y a derrière le mot « réussi » ? Je n'ai pas réussi peut-être comme je le voulais, avec le succès que je voulais, mais peut-être que j'ai réussi à apprendre et à comprendre mieux la vie. Donc, même dans un échec, on apprend. Même si, parce que la vie, est-ce que la vie est une réussite à 100%? Je ne crois pas. On vit tous des moments, on ne fait pas tout ce qu'on veut, comme on veut et avec qui on veut. Il y a des moments, des marges et des frontières qu'on ne passe pas. Parce qu'il y a l'intimité des autres, la liberté des autres et l'histoire des autres. Donc, réussir n'est pas simplement réussir tout ce qui est positif, constructif. Et donc, j'ai réussi tout. Je suis hyper performant, hyper bon. Et je ne réussis pas tout. Je suis nul. Je pense qu'il faut sortir d'une logique un peu basique et binaire. La réussite, c'est la capacité d'être heureux, de ne pas être déstabilisé malgré les échecs et les difficultés, et d'avoir une force intérieure qui te dit, voilà, avance, essaye, continue, la vie est belle, tu n'es pas seul, il y a des personnes à côté de toi, avance avec les autres.
Tout au contraire, si je réussis quelque chose de manière pourtant injuste, comment le comprendre ?
Alors, on peut réussir dans l'avoir, dans le pouvoir, et d'une manière aussi injuste. Mais alors, on se pose la question de la justesse. Parce qu'on peut être très bon, je ne sais pas, je peux faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe comment, donc avec des comportements injustes, j'ai réussi et je continue. J'ai trouvé une manière de faire où je ne suis pas coincé par la justice humaine ni par la justice divine. Mais est-ce que cela est bon ? Parce que, vous savez, parfois dans la justice, on ment. Et comme dit le dicton, parfois le mensonge a les jambes courtes. Donc à un moment ou à un autre, ça se dévoile et ça se révèle. Donc je pense que dans la vie, et parfois on est content, on est heureux parce qu'on a fait plein de choses d'une manière injuste, mais personne ne le sait. Donc quelque part, on croit qu'on est habile, mais à un moment ou à un autre dans l'histoire, peut-être qu'on a fait du mal à des personnes, peut-être qu'on a été injuste financièrement, affectivement, dans la dignité des personnes. Et à un moment, ça va nous revenir dans la conscience. Et tu dis, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait là ? Est-ce que tu as été juste ? Tu as fait souffrir ? Tu as volé peut-être ? Tu as éliminé ? Tu as privé une personne de son bonheur mérité ? Et là, tu as contribué, toi, à te bénéficier, toi, en enlevant à cette personne ce que lui correspondait. Donc là aussi, il faut être tout vigilant.
Alors justement, c'est ma dernière question. Comment le chrétien doit-il réagir dans une telle situation ? Faut-il qu'il renonce à ce semblant de réussite dans ces cas-là ?
Non, le chrétien doit chercher la réussite, mais humaine et spirituelle. Parce que dans le domaine de la réussite, il y a quelque part aussi la parabole des talents. C'est-à-dire que tu donnes et tu exploites ces talents que Dieu t'a donnés et tu fais de ton mieux pour aller plus loin. Donc c'est le but. Dans la réussite, tu prends tes talents et tu les fais fructifier, comme dit l'Évangile. Si, malgré tous tes efforts, ça ne marche pas, cela ne signifie pas que tu es nul, mais cela signifie que tu as fait de ton mieux, que tu dois mieux te préparer, ou peut-être que tu as besoin aussi de l'aide et du soutien des autres. Donc c'est une manière aussi de te situer, pas d'une manière isolée, mais avec les autres, pour te dire comment je peux réussir à la manière de Dieu, à la manière des autres, sans frustration, sans peur, pour aller de l'avant. Et avec beaucoup de simplicité, il faut se dire, écoutez, peut-être que je n'ai pas réussi dans ce domaine, mais je peux réussir dans un autre domaine. Parce que parfois, nous, on limite le domaine à la réussite sociale. Et après, tu as une Ferrari, tu as une maison, tu as des piscines, tu fais des voyages, tu as ce que tu veux, tu as l'avoir, mais tu n'es pas heureux. Moi, je pense que la principale et la plus importante réussite, c'est la réussite de l'être. C'est-à-dire que tu sois heureux en toi, dans ton intérieur. Heureux parce que peut-être tu n'as pas tout l'argent du monde, tu n'as pas fait tous les voyages du monde, mais tu as des personnes autour de toi qui vont te combler, qui vont te donner beaucoup d'affection. Et tu n'as pas la richesse matérielle, mais tu as la richesse relationnelle. Et ça te pacifie, ça te fortifie et ça te donne comme du courage pour continuer à aimer et à lutter avec beaucoup de simplicité.
Merci beaucoup, Cardinal Boussillot, d'avoir été avec nous. On se dit à la semaine prochaine.
Merci.